Bonjour et bienvenue au 1A Club, le podcast BD bimensuel qui prend des pilules.
Yeah.
Salut Mathieu. Ah, on est en forme.
Mais au taquet.
On a la pêche. Bienvenue. Donc, comprend des pilules. Ouais, ce ne sont pas les pilules que l'on vient de prendre. Rassurez-vous, nous ne mangeons pas de ce pain-là. C'est simplement que deux des ouvrages dont nous allons parler aujourd'hui ont comme thème les petites pilules. Pas forcément très agréables d'ailleurs dans les deux ouvrages.
Ça dépend.
Ouais. Bon, ça dépend. Ça dépend de notre chance.
C'est ça. Si tu prends la petite pilule bleue ou la petite pilule rouge.
Voilà. On a un choix assez éclectique aujourd'hui, comparé à la semaine dernière. En plus, on va parler normalement, ça va nous oublier, on va éviter de se planter comme on a fait tout à l'heure.
Ouais, de toute façon, c'était pourri.
Ouais, c'était nul, ouais. Bon.
On va parler... Arrête de me couper la parole, c'est lourd, quoi.
Allez, le programme, de quoi qu'on parle. Alors, tu les dis tous tes titres.
Donc, sans
que je te coupe la parole.
Ok, Spirou Woman à Moscou, Walking Spider, Dead Corpse. Et ensuite, l'encre de l'Ikigami.
Ouais, on y est presque. Et ben, on va tout de suite commencer par
Spider-Woman,
le presque neuf du jour.
Presque neuf.
Exactement. Spider-Woman, agent du SWORD de Brian Michael Bendis et Alex Maalev. Oh, mais nous connaissons ces deux auteurs. Nous ont-ils enchantés précédemment avec une œuvre fort, fort agréable?
Avec un homme qui n'avait peur de rien.
Oui. Ces deux personnes ont travaillé donc sur Daredevil, sur un des arcs de Daredevil les plus intéressants de ces dernières années, que je vous recommande grandement, même si chez Panini, ils ne les ont pas réimprimés, et donc il y en a plein de tomes qui ne sont pas trouvables.
Dommage.
Oui, dommage. C'est ce qui fait que ma collection, je la garde précieusement. Eh bien, Bendis et Maalev voulaient bosser encore ensemble, parce qu'ils avaient adoré leur travail sur Daredevil. Bendis étant un grand fan de Spider-Woman, d'ailleurs il avait écrit la série Alias, qui était dessiné par Alex Maalev, si je me souviens bien, à l'époque déjà. Ouais, j'ai un doute, mais il me semble bien. Faudra que je vérifie, parce que c'était un style particulier. Enfin bon, il avait créé la série Alias en voulant faire Spider-Woman, mais il n'avait pas le droit de la faire à l'époque. Mais depuis, il est devenu un petit peu le roi de chez Marvel, et il fait un peu ce qu'il veut. Donc il a récupéré le personnage de Spider-Woman suite à Civil War, où l'on a appris que Spider-Woman, en fait, avait été enlevé par les méchants extraterrestres polymorphes, les Skrulls, et que suite à Secret Invasion, voilà, les Skrulls avaient été révélés et que elle avait été remplacée par la Reine des Skrulls. La Reine des Skrulls s'est fait dessouder, sauf que maintenant elle revient dans le vrai monde après avoir été emprisonnée pendant des années. Elle considère un peu que sa vie c'est de la merde.
Même pire que celle de Wolverine.
Ouais, voilà, c'est ce qu'elle dit. J'ai une vie pire que celle de Wolverine, pour dire comme c'est vraiment une vie de merde.
Et en plus, tout le monde la déteste.
Bah oui, parce qu'elle a la tête de la grosse méchante qui a voulu envahir le monde. Et qui a été dessoudée par un certain Norman Osborn.
Ça, c'est vraiment la loose, par
ça, c'est vraiment la loose. Donc, elle revient et ça se passe pas top, jusqu'à ce que le SWORD, une des nombreuses agences...
Secrète
du monde de Marvel. On a le Shield, le Sword,
le Hammer.
Qu'est-ce qui nous manque? Le prochain va avoir les autres ont toujours un acronyme en forme de.
Non, attends, en plus là le Sword, il y a même le.
Ouais.
Les initiales. Attends, je le retrouve.
Ouais, c'est Secret Winner Wola Rdeda.
Non.
Non.
Alors. Voilà, ouais. Sentient World Observation and Response Department.
Bon, en gros, le SWORD, c'est un peu ceux qui sont là pour vérifier ce que font les extraterrestres quand ils arrivent
sur Terre
et l'empêcher d'agir. C'est assez international.
Surtout que tu apprends qu'il y a 32 races d'aliens qui vivent déjà sur Terre.
Oui. Ce qui est assez énorme. Et donc, il lui propose, en gros, de donner un sens à sa vie en allant latter du Skrull. Histoire de se venger, de se rendre utile. Et voilà.
Et là, pour le coup, il ressemble quand même vachement à Wolvie.
Oui. Oui, elle décide, ouais, on va aller latter du Skrull, ça va me passer les nerfs. Et donc, elle part sur une mission pour retrouver un Skrull. Et là où il y a encore un rapprochement avec Wolvie, c'est que la mission se passe à
Madripoor.
Madripoor, merci, je ne trouvais plus le nom de cette ville. Qui est la ville dans laquelle où Olvi a vécu longtemps.
C'est une ville magnifique.
Ouais.
Il se passe toujours, un truc pourri là-bas, de toute façon.
Ouais, c'est... Et bien sûr, bah, ça ne se passe pas comme prévu, parce que sinon, il n'y aurait pas d'histoire. Quoi.
C'est ça.
Voilà, elle nous fait la super agent secrète à la James Bond. Ce qui fait qu'en gros, tout le monde la repère à peine aimer les pieds sur Madripoor. Et ça part en gros en thriller action. Quoi. On est vraiment dans les pures histoires d'action.
Ouais. Thriller action, et en même temps avec une... Enfin, on va dire une espionne qui fait que des gags, quoi.
Que des gags.
Bah, elle se fait arrêter par les flics. Bonjour, je suis une espionne pour le SWORD, en fait.
Oui.
Premier interrogatoire. Bonjour, en fait, je travaille pour le SWORD. C'est une agence qui est totalement secrète. C'est personne de savoir, mais je vous le dis. Et puis j'ai une montre qui détecte les scrolls.
Oui. Bah, elle croit que les gens vont pas le croire. Ils vont pas la croire en disant la vérité. Mais c'est pas une bonne technique.
C'est pas une bonne technique quand même. Je pense.
Voilà. Au milieu de tout ça, on a donc l'Hydra, parce que c'était une grande méchante, c'était une super méchante avant, elle travaillait pour l'Hydra, qui essaye de la récupérer derrière, ça part en vrille dans tous les sens. On est dans l'espionnage, on a en gros toutes les agences gouvernementales, il n'y a que le SHIELD qui n'intervient pas, je crois. Ouais,
voilà. Bah, en théorie, il a cessé d'exister pour l'instant. Enfin, il est un petit peu en restructuration.
Ouais, voilà, donc il y a toutes les agences gouvernementales qui essayent qui sont au milieu. On a donc ce côté espionnage, mais c'est très très de l'action. Ça court dans tous les sens, ça tire, ça saute, ça poursuit.
Ça explose.
Et scénaristiquement, c'est divertissant, c'est sympa, c'est pas exceptionnel. On voit le personnage, il évolue pas beaucoup. Hein. C'est un recueil de 5 numéros, ou 6 7, pardon. 7 numéros. 7. C'est un beau recueil d'ailleurs pour le coup.
Oui.
Et c'est vrai que voilà. C'est du Bendis, c'est bien écrit. Moi, ce que j'aime, c'est les dialogues, en fait, toujours chez Bendis. Hein. Il a un sens du dialogue qui est assez exceptionnel. On a l'impression que les personnages, on peut les entendre parler. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est un arc narratif bien complet, qu'on peut lire de façon assez indépendante sans avoir suivi le reste du monde de Marvel, ce qui est notre cas. Et nous allons en venir au dessin. Les dessins d'Alex Malev. Bon, moi, j'adore Alex Malev.
J'adore aussi Alex Malev.
Et là, sur Spider-Woman, Alex Malev, non seulement il a fait les dessins, il a fait aussi l'ancrage et les couleurs. Et là, on n'est peut-être pas d'accord.
Là, ça pique un peu les yeux, quoi. Donc, bon, là, c'est un avis totalement personnel qui n'engagera sans doute que moi. Mais bon, c'est un exceptionnel dessinateur. C'est placé, c'est dit. Maintenant, les couleurs, je pense que c'est trop flash, quoi. Il y a des pages entières qui sont bleues, des pages entières qui sont jaunes, d'autres rouges. On fait un petit peu toutes les nuances, puis ainsi de suite, quoi.
Bon, le truc qui cloche le plus, on va dire, dans cette histoire, c'est le costume de Spider-Woman, hein, on va le dire, avec ses couleurs rouges et jaunes flashy. Moi, c'est le seul truc qui a choqué un petit peu.
Tu parles de la couverture ?
Oui, et puis même dedans, les rouges et jaunes flashy.
Ouais, mais enfin, rouge. En même temps, le costume, elle n'a pas tout le temps. Hein.
Oui, heureusement, parce que... Non, moi, les couleurs, en fait, étaient très expressionnistes, en fait, ce que je trouve, justement. C'est peut-être ce qui t'a déplu. Il n'y a pas eu de recherche vraiment réaliste. Il y a un côté très expressionniste de créer des ambiances.
C'est peut-être trop d'ailleurs.
Et ouais, tu trouves que c'est trop. Par contre, le problème, c'est que dès qu'on arrive sur des trucs où on a des scènes pariolées, donc à un moment, on a les vengeurs qui rappliquent. Enfin, les vengeurs. Les gentils vengeurs. Puisqu'en ce moment, il y a les méchants et les gentils vengeurs.
Mais en plus, là, c'est les vrais.
Ouais, là, c'est les gentils vrais vengeurs qui rappliquent. C'est vrai que les couleurs des costumes étant très super-héroïques, très bariolées, ça choque un petit peu. Mais sinon, dès qu'il essaye de poser une ambiance, moi, je trouve que c'est assez réussi. Et on se prend bien dedans. Ça peut choquer parfois, mais... Enfin, au début, en tout cas, moi, ça m'a un peu perturbé. Et puis après, je suis rentré dans l'histoire, rentré dans le dessin.
Ouais, mais enfin, d'un bout à l'autre, moi, ça m'a piqué les yeux, quand même.
D'accord. C'est un peu ton problème. Mais à côté de ça, ça reste quand même...
Non, c'est une bonne histoire, ça se lit bien. Maintenant, on pourrait s'attendre à ce que ça dure un peu plus longtemps, qu'il y ait un petit scénario un peu plus pointu
mais ça
de la part de Bendis.
C'est pas grave, ils vont nous refaire une autre série bientôt.
Scarlett.
Voilà. Là, je crois que Bendis, Malev, va aussi faire ses couleurs, donc tu risques de faire la tête.
Non, ben, je mettrai des lunettes de soleil.
On verra ce que ça donne. Donc, c'est Spider-Woman, c'est chez Panini, ça coûte 16 euros. C'est pas très cher, d'ailleurs, hein, pour un recueil de cet épisode. Ça vaut le coup.
Il faut quand même parler juste de la couverture.
Oui, je t'écoute.
Quelque chose, quand même, moi, qui m'a un petit peu choqué, c'est dans l'aspect des proportions. Je pense quand même que Spider-Woman a une poitrine qui est totalement disproportionnée par rapport à sa taille.
Non mais, c'est vrai que ça a un côté un peu impressionnant, même si dans certains films, certaines actrices peuvent y arriver grâce à un suivi chirurgical conséquent. Mais il faut penser que c'est un peu, tu vois, comme le costume de Batman. Il y a des plaques pour rembourrer, pour rendre plus impressionnant, tu vois. Là, en fait, ils ont mis des trucs d'hélium à l'intérieur de la poitrine pour que quand elle saute, tu sais, elle volette avec
Ce
ses petites ailes à deux balles, on ne sait pas pourquoi ça marche ou ça marche pas, qu'elle
Ah,
puisse
ça
tenir plus
plaît.
longtemps, tu vois. Voilà, c'est son costume qui fait ça. C'est pour ça qu'elle peut voler, d'ailleurs. Voilà. Voilà, c'était la théorie Spider-Woman du
Ok,
jour.
donc nous allons passer à la suite pour laisser Spider-Woman avec sa théorie et son
Voilà,
petit
et maintenant,
costume.
c'est la suite avec que du rattrapage.
Avec Spirou Fantasio à Moscou de
De.
Tom et Jean-Ri.
Que nous raconte ce Spirou?
Spirou et Fantasio montent dans un avion. Spirou tombe à l'eau. Qui reste-t-il?
Je crois que tu te trompes d'émission. Nous ne sommes pas aux grosses têtes.
Donc Spirou et Fantasio donc prennent l'avion pour aller en vacances au chaud,
Ouais.
au soleil.
La
Ils ont
classe.
prévu les maillots de bain et tout. Et malheureusement, à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, ils se retrouvent dans un avion en direct pour Moscou. Mais pas le Moscou à la cool maintenant avec la vodka, la mafia et tout. Non, le Moscou ancien régime.
Bah, la BD est un peu ancien régime aussi.
Oui, non, mais je préfère le préciser pour les gens
Voilà.
qui ne connaîtraient pas le Moscou ancien régime.
D'accord. C'est pas le Moscou où on achetait des filles.
C'est ça, c'est ça.
C'est un autre.
C'est celui où tu avais des tickets pour aller acheter juste une tranche de jambon.
D'accord. Et donc, ils se retrouvent là-bas. Et pourquoi est-ce qu'on les enlève? Quelle mission vont-ils avoir? Que se passe-t-il?
Il y a un nouveau parrain de la mafia, c'est ça?
Non, je crois que. Bon, ça va. Alors, je vais le dire pour toi parce que t'as l'air un petit peu, ça a l'air loin là.
Oh, non, non, mais c'est que ça, bah, voilà, ça m'a pas passionné, je suis
D'accord.
désolé. Donc,
Bon, bah, en gros, ils doivent sauver des journalistes qui sont allés filmer un truc là-bas. Et donc, pour ça, ils doivent se rencarder justement sur des gens de la mafia et compagnie.
Ah ben, j'étais pas loin.
T'étais pas loin, ouais, mais l'objectif principal n'y était pas exactement. Et donc, oui, c'est des journalistes qui se sont déguisés en saucisses pour atterrir sur je sais plus quel
La
grand
place
monument.
rouge?
Ouais, voilà, enfin bon. Et donc ils se retrouvent avec les joies et le bonheur de Moscou. Alors, toi, ça t'a pas passionné. On retrouve exactement pourtant les mêmes recettes de l'excellent Spirou et Fantasio à New York. C'est exactement la même chose au niveau des recettes. Ça fonctionne exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'ils sont un peu héros malgré eux. Autant dans le Spirou à New York. C'était une histoire de contrer la malchance. Là, c'est parce que ils sont réputés, etc. Pour aider une bande de personnages à tendance humoristique qui sont des bras cassés. On retrouve quand même le retour d'un grand méchant qu'on a déjà vu à plusieurs reprises. Voilà, Zantafio, on peut le dire à haute voix, parce que soit tu chuchotes et les gens vont passer 2 heures à deviner, soit tu le dis vraiment, franchement, hein. Et donc toi, t'as pas passionné, qu'est-ce qui t'a bloqué là-dedans?
Peut-être que voilà, celui de New York fonctionnait bien parce que entre-temps il y a eu Soprano, tu vois, du coup voilà, la mafia ça me passionne plus quoi, mais là bon ok super Spirou et Fantasio fume des cigarettes. Bon, et alors? Voilà, tu
Oui.
vois, j'ai bof, non, bon
Oui,
bah.
rien de. Tu retrapes. Ouais, il n'y a pas. Bon, il n'y a pas la transgression qu'on peut avoir après dans les futurs épisodes de Tom et Jean-Ri.
Bon après il y a le petit truc drôle avec bon ben un petit peu la critique. Un petit peu la critique du régime des communistes avec l'idolâtrie qu'ils ont pour la dépouille donc de Lénine
Ouais.
mais voilà j'ai pas moi j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment grand chose quoi il y a un petit peu de dérision à des moments qui te fait sourire mais pas plus.
D'accord. Bah moi, j'ai trouvé que c'était un Spirou très efficace. Alors, effectivement, il n'est pas exceptionnel. Il m'a pas autant marqué que d'autres. Hein, mais il reste très, très sympathique, très efficace. Pour moi, on est un peu dans l'âge d'or de Tom et Jean-Ri. C'est-à-dire que, enfin, coucou, ils ont toujours été assez bons. Hein, mais c'est un de leurs mauvais. Et donc, c'est un Spirou plutôt moyen. On peut pas dire qu'il soit mauvais. Il y a une fin sympathique, c'est bien raconté, les dessins commencent, enfin sont vraiment au top, je trouve. Au niveau, il y a de la patate quoi dans le dessin.
Oui, ça je le reconnais.
Il y a quelques trouvailles super sympathiques, un côté un peu sombre parfois, un trait qu'on retrouve parfois dans toutes les zones sombres quand ils sont dans les sous-sols, etc. On retrouve un peu l'ambiance qu'ils ont refait après dans Machine qui rêve. Ce côté un petit peu plus sombre, un petit peu plus réaliste, bon, même si là on reste encore dans du très comique. Hein. Bref, j'ai trouvé que c'était un sympathique Spirou. Mais bon, nous allons passer à un rattrapage qu'il était temps qu'on fasse, je
Mais quand
pense.
même beaucoup plus réjouissant.
Beaucoup plus réjouissant. Alors en gros, j'hésitais à mon libraire vis-à-vis des divers conseils qui traînaient à gauche à droite. Il fallait que j'attaque une des BD. C'était Fear Agent ou Walking Dead. Ça a été Walking Dead. C'est bien. Maintenant, j'ai 11 numéros de retard. Parlons donc un petit peu de Walking Dead à la base. Donc, c'est une bande dessinée scénarisée par Robert Kirkman et dessinée par Tony Moore et Charlie Adler. Je ne sais plus lequel commence. C'est Tony Moore, hein, le premier. Ensuite, c'est Charlie Adler qui fait les quelques pages à la fin, si je me souviens bien.
Je vais valider comme ça, je dirais oui, tu as raison.
Ça tombe bien, Tony Moore, c'est le dessinateur de Fear Agent, donc quelque part.
Tu n'as rien raté.
J'ai pas changé de dessinateur, quoi. Charlie Adler, bon, c'est un peu un gros vétéran des comics. Hein, il a dessiné un paquet de trucs.
Judge Dredd.
Voilà, bon, c'est le monsieur qui est passé par la case 2000 AD, comme beaucoup de dessinateurs britanniques. Je dois même avoir, apparemment, il a dessiné dans X-Files. Je dois même avoir un vieux fascicule de la BD X-Files qui traîne où ça devait être lui qui dessinait. À l'époque, je trouvais le dessin de X-Files, la bande dessinée, pas top, donc faudrait que je regarde parce que mes goûts ont un peu évolué. Bon, Kirkman, pas grand-chose à dire sur lui, hein, on en a déjà parlé, comment ?
Invincible.
Invincible, voilà, qui est une excellente série, avec les Ultimate X-Men aussi, sur lesquels il a travaillé un moment, on en a parlé aussi. Un scénariste qui est assez agréable et qui, en gros, prend des genres classiques et arrive à les rendre intéressants parce qu'il a un sens de la narration très efficace. Donc autant dans Invincible, on prend le super-héros ado classique, et là, dans The Walking Dead, il nous prend, on va le dire, hein, il nous prend 28 jours plus tard.
Oui, donc là, du coup, en fait, quelque part, c'est peut-être pas non plus la preuve de son scénario qui déchire, quoi, parce que c'est 28 jours plus tard.
Bah, on est dans un début de grosse saga, hein, donc faut voir ça aussi. Disons que lui, il a l'avantage de pouvoir faire durer son histoire et de faire évoluer ce personnage. C'est du feuilleton, donc beaucoup plus longuement que dans 28 jours plus tard, où il faut que le personnage fasse son évolution et la finisse dans les 1h30, 2h de film.
Oui.
Et puis, on n'a pas le même propos non plus. On va dire que c'est le postulat de départ qui est le même.
Le postulat de départ et puis, on va dire, les 20 premières pages, c'est 28 jours plus tard. Là, on peut pas...
Oui.
Tu transiges pas, c'est 28 jours
bon,
plus tard.
Bon, en gros, pour ceux qui n'ont pas vu 28 jours plus tard...
Un mec se réveille à l'hosto.
Ah non, première page, un mec essaye d'en arrêter un autre, un flic essaye d'arrêter un gars, se fait tirer dessus, se réveille à l'hosto.
Et ben, il réalise qu'il n'y a plus personne autour de lui, quoi.
Plus personne. Donc il est dans une petite ville, hein, c'est pas un truc énorme, donc il n'y a pas la grandiloquence de Piccadilly Circus vide. Et puis, qu'en fait, il y a des morts vivants, quoi.
Partout.
Voilà. Et lui, ce qu'il veut, c'est retrouver sa famille.
Qui est partie à Atlanta.
Il suppose, parce que c'est la grande ville, que les gens seraient partis à la grande ville pour aller chercher des secours. Quoi. Quelque chose qui m'a, par exemple, choqué par rapport à 28 jours plus tard, c'est que il rencontre rapidement d'autres personnes qui ont survécu au problème, dont on ignore l'existence, hein, on ne sait rien du tout. Quelque chose qui m'a choqué, c'est qu'ils ont des réactions, qu'en fin de compte, à y réfléchir, sont très logiques, ils sont pleins d'espoir. Le gouvernement va venir, il faut qu'on attende les secours, ils vont arriver. Ils n'ont pas cette approche. En gros, ils ne survivent pas pour survivre, ils survivent pour attendre les secours. C'est vraiment cette approche qu'il y a pendant un bon moment, pendant tout le bouquin. Tout le bouquin, c'est ce qui se passe. Le tome est assez conséquent, donc il se passe quand même pas mal de choses dedans. On va dire rapidement que là où ça commence à différer, c'est quand il rejoint une communauté de survivants qui vit aux abords d'une ville. Et qui essaie de mener la survie, sauf que lui, en arrivant, il commence à essayer, entre guillemets, il fait le grain de sable, quoi. Il va amener de nouveaux objectifs, de nouvelles idées, qui passent pas forcément auprès de tout le monde, et surtout de l'homme fort, on va dire, de la communauté, qui est un de ses anciens collègues. Voilà, on a réussi à raconter sans trop spoiler diverses choses. Voilà, c'est un beau tome. Ça coûte 13,50€ le tome 1.
Donc, sachant qu'il y a 10 tomes.
11. Il y a 6 numéros dedans.
Bon, donc tu en as pour 150€, quoi.
Voilà, bon. Hein? Attends, on va y aller en douceur. On les fera au fur et à mesure de nos courses. Donc, attendez-vous à avoir du Walking Dead régulièrement dans les mois à venir. Parlons maintenant un peu du style graphique. On est dans du noir et blanc, tramé. Tramé avec des niveaux de gris numérique.
Plutôt.
Voilà, c'est de la couleur en niveau de gris numérique, un travail, voilà. Tramé niveau de gris, d'ailleurs, c'est appelé au niveau de ce qui se fait. Ça rend très bien. Il y a juste un effet qui est bizarre, je trouve, c'est qu'on a l'impression que c'est un truc couleur passé en noir et blanc, parfois.
J'ai pas eu cette impression.
Parfois, pas tout le temps,
ouais, mais de temps en temps, ça m'a choqué.
Voilà. Qu'as-tu pensé du dessin de Tony Moore? C'est lui qui fait tout l'album.
Efficace, mais sans plus.
Sans plus.
Moi, j'ai pas. Ça m'a pas, voilà. Je suis pas resté sur le cul sur le dessin. Je suis pas non plus là à me dire que il y a plein d'erreurs ou que c'est moche. Non, c'est efficace.
Oui, je
après,
crois que...
après, au niveau du scénario, il faut voir comment ça va évoluer. Mais bon,
oui.
Déjà, à la fin, on a déjà quand même une grosse évolution, quoi.
Et on aimerait bien voir comment ça va évoluer. Oui. Enfin, moi, ça m'a attisé ma curiosité. J'ai bien envie de voir. De toute façon, ce que tout le monde dit de cette série, c'est que sa réussite vient du fait que le gars, avec un sujet qui, en général, fait 1h30 de film et où tout le monde meurt à la fin, en général, hein.
Ouais.
Les trucs de zombies, c'est ça, hein. Il arrive à faire sa série dure depuis 6 ans et la qualité ne baisse pas. Donc je suis très curieux de voir comment il va faire et comment il va s'en sortir. Je pense que oui, alors la participation de Charlie Adlar, c'est les quelques pages qu'on a à la fin qui racontent une histoire secondaire sur d'autres personnages, un truc très très court.
C'est les personnages que j'ai rencontrés au début.
Voilà. Là, je trouvais les dessins plus enfin bon, déjà
plus
les
réalistes.
Ouais, les dessins sont plus réalistes. L'ancrage est plus contrasté.
Les couleurs en noir et blanc, ça marche.
Ouais, les couleurs en noir et blanc, les contrastes, je voulais dire, pas couleurs, ça va. Donc c'est plus contrasté et c'est très 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 humain comme histoire. Quoi. Moi, c'est ça qui m'a frappé. On a l'impression qu'en fait les zombies sont un prétexte à mettre les personnages en situation extrême pour voir comment ils vont réagir. Et c'est un peu ce qu'on avait aussi dans Invincible, sauf que là les situations c'était des situations extrêmes de super-héros pour voir comment ils vont réagir. Non, t'as pas eu cette impression-là aussi ?
Non, parce que là, du coup, tu dis ça et je
réfléchis. La rétro-réflexion.
C'est ça. Je rentre en réflexion dans moi-même. Je donnerai mon avis la semaine prochaine.
Ouais.
Parce que là, il faut le temps que je le médite quand même, celui-là. Quoi. C'est...
Bon, médite.
Et nous passons donc à Ikigami, Préavis de mort, tome 2.
Nous avons déjà dit pas mal de bien du premier tome, que nous avions trouvé sympathique, avec quelques réserves toutefois.
Mais parce qu'on attendait quand même impatiemment que notre personnage évolue.
Que l'intrigue avance et que notre personnage
progresse un petit peu.
Et ben non, en fait. on peut le dire clairement, le fil rouge sur le tome 2 d'Ikigami, mais il se passe rien. Quoi. On apprend 2-3 trucs sur la vie privée du fonctionnaire donc, qui relivre les préavis de mort.
Oui, mais il y a une progression, moi, je trouve, sur sa façon de gérer les choses, quoi. C'est...
Oui.
Enfin, le mec, maintenant, il le vit à la cool.
Oui, bon.
Ouais, je veux dire...
Petit résumé rapide.
Deux histoires, donc, dans Ikigami, cette fois-ci. Donc,
Non, pas résumé des histoires, de la situation de base du concept. Bon, en gros, c'est une société où personne sur 1000 reçoit une capsule qui le tuera entre 18 et 25 ans pour faire progresser la société et qu'on ait envie de s'intégrer dedans. Et on suit la vie de gens qui vont recevoir cette pilule, qui leur est remise par un même fonctionnaire, qui est le fil rouge de la série, qui remet en fait, enfin pas la pilule, mais qui remet le préavis de mort, qui leur dit dans 24 heures, vous allez mourir parce que la pilule va vous tuer. C'est un résumé rapide, un résumé express. Faut qu'on prenne l'habitude de faire des résumés express pour les gens qui découvrent le podcast en cours de route. C'est les nouveaux.
Il y en a encore ?
Bonjour les nouveaux. Mais oui, bien sûr. Et là, on a donc deux histoires complètes de personnes qui vont recevoir l'Ikigami, toutes en ayant ce fonctionnaire. Alors déjà, bon, on va faire vite fait le tour du fonctionnaire. C'est vrai que dans le premier tome, il débutait dans le boulot, on va dire.
C'est ça. C'est son début, il est là, il est nouveau, on le forme, on lui explique vous avez délivré l'Ikigami, on lui explique comment ça fonctionne. Et bon, on a aussi un petit aperçu quand même d'un monde qui est assez totalitaire, c'est-à-dire que si on n'est pas d'accord avec l'Ikigami, on subit l'Ikigami d'office. C'est ce qui arrive justement dans le premier tome, dans la présentation de comment ça fonctionne. Quelqu'un qui n'était pas d'accord, on lui a dit « Hop, Ikigami !» Voilà, rapidement. Maintenant, dans le tome 2, notre personnage a déjà un petit peu d'expérience, ça fait déjà quelques mois qu'il... donne les Ikigami et je trouve qu'il commence à avoir il devient un peu cynique, il est un peu blasé quoi, par l'Ikigami avant où tu sentais que c'était vraiment le truc super important pour lui, il fallait que ce soit fait vraiment dans les règles. Voilà, maintenant c'est bon quoi.
Oui, un peu plus zen, il va prendre le temps d'aller rendre ses cassettes vidéo
pour pas avoir une amende.
Une amende plutôt que d'aller directement voir un de ses clients. Moi, il y a une scène qui m'a perturbé beaucoup. Alors, on peut trouver le personnage odieux, mais d'un autre côté, c'est assez humain en fin de compte. Il y a sa copine qui le largue.
Parce que, justement, son boulot, c'est de livrer les Ikigami.
Voilà, et qu'elle le prend mal. Et de nerf, en fait, il fait quelque chose d'assez atroce. Il la regarde, il fait « Ah, tu me largues parce que tu n'aimes pas mon travail. Ça veut dire que tu es contre mon travail. Ça veut dire que tu es contre le régime. Ce genre de sous-entendu pourrait être dangereux pour toi, etc. » En gros, il lui met un stress monstrueux à la fille. La scène est super bien faite, très tendue. Enfin, moi, ça m'a. C'est vraiment froid dans le dos. Voilà pour notre fil rouge. Mais à part ça, il n'y a pas grand-chose, quoi. Je pensais qu'on allait avoir une prise de conscience du personnage à un moment ou à un autre. C'est pas le cas. C'est pas moins. Ça n'est pas moins intéressant, hein, mais ça avance pas beaucoup.
Ouais, je trouve que enfin, bon, les deux histoires sont intéressantes et je trouve
Voilà.
que le personnage avance petit à petit. Bon, c'est sûr qu'il va quand même falloir un moment qu'on passe à la vitesse supérieure, quoi. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se bouge, quoi. C'est certain. Mais je pense que c'est. T'as des petites prémices, t'as des petites touches, voilà.
Je t'avoue que pour le moment, tant que les deux histoires qui constituent chaque volume sont intéressantes, que ça avance pas trop vite, c'est pas très grave. On va dire que ça serait la cerise sur le gâteau, le truc qui rend la BD vraiment géniale. Mais là, donc nous avons deux histoires, c'est-à-dire qu'on va suivre deux personnes qui vont recevoir l'ikigami. On commence par un gars qui bosse dans une maison de retraite.
Non, une boîte de prod.
Ah, boîte de prod, pardon. Donc la maison de retraite, c'est après. Donc oui, un gars qui bosse dans une boîte de prod, qui veut devenir réalisateur. C'est un gars qui ne travaille que pour l'ambition de son boulot, qui se drogue pour réussir à tenir le coup parce qu'il se donne à fond, qu'il n'en peut plus. Il a une petite amie qui essaie de le soutenir, mais il ne s'en rend pas vraiment compte, en fait.
C'est là son tort.
Voilà. Et il apprend que.
Que sa petite amie a reçu l'ikigami. Sauf que lui, il est sur le tournage le plus important de sa vie.
Là où il est réalisateur. Alors déjà, l'auteur s'amuse à nous piéger, il commence à le faire, on s'attendait à ce que ce soit lui qui le reçoive.
Oui et non.
Et non. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, c'est qu'il commence déjà à aller contre nos attentes pour nous surprendre. Il avait posé un peu la situation au premier coup, et donc il doit essayer de la rejoindre. Enfin bon, encore une histoire très touchante, très 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 dure, parce qu'il sait qu'il a peu de temps pour la revoir, mais est-ce qu'il va le faire ou pas, parce qu'il a son tournage il hésite, mais le temps passe. Elle commence à se dire qu'autant qu'il m'oublie, parce que comme ça il me regrettera pas. Une histoire assez touchante et assez dure, avec une fin. Voilà, un peu larmoyante. De toute façon, dans cette
Enfin,
série-là,
quelque part, tu sais ce qui se passe à la
oui,
fin.
il meurt à la fin. Ikigami, le seul bouquin où on peut dire il meurt à la fin et ne jamais se tromper. Et donc.
On a failli croire à la fin de la première histoire qu'on pourrait ne pas mourir.
Oui, on a failli y croire. Ouais, là, oui, il y a une astuce qui est intéressante. Il cherche une astuce intéressante. On voit que les gens commencent à essayer de contrer l'ikigami d'une façon ou d'une autre. Bon, une histoire bien sympathique. Et la deuxième histoire, là, donc on disait, c'est le gars qui bosse dans une maison de retraite et qui est nul.
C'est ça.
Il est minable, il sait rien faire, il est maladroit en fait. Il est plein de bonne volonté, mais il est un petit peu lent d'esprit, un peu maladroit. Jusqu'à ce qu'une petite vieille le.
Reconnaisse en lui
Voilà.
son ancien mari.
C'est ça.
Et donc du coup, finalement, elle va faire plein d'efforts pour lui. Elle va se remettre à marcher. Elle
Elle va s'en
va.
mettre à marcher, oui.
Et donc du coup,
Pensant que c'est son ancien mari.
voilà.
Et il y a tout un parallèle avec son ancien mari qui est parti à la guerre, qui est mort, etc. Et lui qui a reçu l'ikigami, qui ne sait pas comment réagir, qui est en train de se trouver un rôle dans la société. Et là, c'est là que c'est terrible. Hein. C'est que si tu regardes bien la morale de cette histoire, c'est que l'ikigami a marché. Grâce à l'ikigami, il a trouvé un rôle dans la société quand même.
Ouais, non, on peut partir. Non, non, là, moi, j'irais au contraire que justement, pour une fois, le gars, il a été un loser toute sa vie. Ça fait quelques peut-être semaines qu'il a trouvé un rôle à sa vie. Ça y est, il
Oui.
s'est trouvé une vie. Et t'as l'ikigami qui vient et qui lui dit, ben, c'est bien, t'es content, t'as trouvé le sens de ta vie? Ben, c'est fini.
D'ailleurs, on découvre qu'il y a des cellules psychologiques pour aider les gens à surmonter l'ikigami.
D'ailleurs, là, je pense que c'est une critique personnelle de la part de l'auteur vis-à-vis des psys.
Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est très cynique. Hein.
C'est oui.
C'est très cynique, c'est très bien mené. Enfin, c'est. Voilà, une bonne série donc de Motoro Mazé chez Kaze Seinen qui coûte 7,95 € le tome. On vous parle du tome 3 assez bientôt parce que, pareil, c'est comme The Walking Dead, c'est dans ma liste de choses à acheter. Mais là, j'ai moins de tomes en retard. L'encre du passé de Maël et Antoine Boza. Donc, c'est chez quel éditeur déjà? Chez
Dupuis.
Dupuis, collection Air Libre. On va parler dessus des choses qui fâchent, ça coûte 15,50 € et on peut.
Pourquoi qu'il fâche?
Bah, le prix, ça fâche toujours. C'est pas, non, mais je dis pas que c'est cher. Hein, non,
là, ouais, non, parce
coup,
que là, pour
là,
le.
non, non, c'est très bien, il n'y a rien à dire. C'était les choses qui fâchent, le prix, ça fâche toujours, je suis désolé, oh, je ne les prêterai pas, les BD, ça me plairait plus.
Ouais, mais du coup, t'es que les dessinateurs vivraient pas, et les scénaristes non plus,
Ouais, c'est
et.
vrai, c'est, le monde est mal foutu quand même. Voilà.
C'est un peu l'idée.
Donc, c'est une bande dessinée qui nous raconte les pérégrinations d'un maître
Calligraphe,
calligraphe.
Moitsu.
Voilà, qui se balade à travers le Japon, hein, il est itinérant apparemment, hein, et qui, alors qu'il est dans comment, chez un teinturier, découvre une jeune fille
Atsuko.
qui a beaucoup de talent pour le dessin, et donc il décide de la prendre sous son aile pour l'emmener rencontrer un dessinateur qu'il connaît,
Aedo.
voilà, qui est assez
Alors c'est
réputé.
pas le mec s'appelle pas Aedo, hein,
Oui,
c'est Edo, c'est la ville.
à la capitale, donc à Edo. Donc il décide de l'y emmener pour qu'elle devienne l'élève de son ami peintre. Et donc on va suivre cette rencontre, puis ce voyage initiatique, et on va finir sur quelques années après, sur cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle est devenue?
Qu'est-ce qui est devenu Moitsu aussi?
Voilà. Bah, qu'est-ce qu'il est devenu? Non, c'est pas. Disons
Ah,
que.
ça a son importance quand même.
Ouais. Ça a son importance. Enfin, ce qu'ils sont devenus, comment ils ont évolué, et puis comment est-ce qu'ils ont évolué, surtout par rapport à leur art. C'est ça qui a de l'importance. Et quelles leçons donc le maître va pouvoir donner, enfin le maître, le calligraphe, c'est pas vraiment son maître, mais quelque part un peu aussi, va pouvoir donner à son élève des années après, et c'est la leçon qu'elle-même lui avait donnée des années avant. C'est très sympathique au niveau du scénario, parfois un petit peu complexe. Bon, alors c'est toujours le problème des bandes dessinées à connotation asiatique, il faut retenir tous les prénoms. Moi, je sais que j'ai un peu du mal qu'est nom des personnages. On a vraiment un rythme assez lent, mais tout ça est subjugué par des dessins sublimes en fait. J'adore les dessins.
Là, ouais. Là, on
Voilà.
peut rien dire.
Les dessins qui permettent, voilà, tous les moments d'attente, de pause, d'observation, de contemplation. Sont, mais voilà, on reste des heures à regarder ces dessins. Ça s'intègre parfaitement dans le récit. Et c'est assez difficile de parler de cette bande dessinée sans tout raconter, en fait, je trouve. Parce que si on regarde bien, il ne se passe pas tant de choses que ça. Il
Y a plein d'énigmes.
y a plein d'énigmes, ouais. Les réponses sont là, hein, elles sont diffuses au long de la BD. Enfin voilà, déjà, c'est pas la BD où on va nous dire hey, au fait, ce que je voulais dire et que je ressens au fond de moi, c'est ça, gnagnagnagnagnagnagna, je rentre dans le détail. On n'a pas des personnages très, très, très bavards. Tout passe par le trait, le dessin, l'allégorie.
Comme la calligraphie.
Voilà.
Enfin, d'ailleurs, il faut quand même dire qu'il y a un vrai calligraphe qui a aussi travaillé sur.
Sur les calligraphies qui sont présentes dedans et qui sont très jolies. Voilà. Bon, je suis pas spécialiste, je peux pas non plus juger
Ah non,
de
ouais,
dire
non, pareil, mais
voilà.
c'est vrai que là, enfin, au niveau du dessin, au niveau de l'ambiance, c'est des aquarelles, c'est très, très, très. Je sais pas, voilà,
C'est
c'est
dans le
dur.
ton, c'est dans le
C'est
ton.
ouais, c'est
C'est
dur à
dur d'en
dire.
parler. Bon, ce qu'on va dire, c'est que plutôt que d'essayer d'expliquer ce qui est difficile, donc on peut dire que le dessin est beau, qu'il y a une inspiration, il y a un côté un petit peu simpliste, un petit peu plus impressionniste, voilà, que réaliste. Les aquarelles sont très bien travaillées. Le scénario, je disais, il est tout en finesse. Voilà, c'est tout en finesse le mot que je cherche. Il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'aventure, c'est vraiment que de la réflexion sur le parcours de ces gens dans la vie, ce qu'ils cherchent, sur le syndrome de la page blanche, sur la question de savoir qui ils sont, qui ils étaient. Globalement, enfin moi j'ai aimé, voilà. C'est tout ce que je peux dire. J'ai trouvé ça super sympathique. Je suis arrivé à la fin de cette BD, j'ai fermé la dernière page. Et voilà, petit soupir de satisfaction, sans forcément trouver les mots qui me permettent de dire à quel point, je l'aurais apprécié.
C'est un petit peu ça, je pense que c'est plus une impression à la fin. Tu restes sur une sorte de moment où c'était une impression de zénitude, quoi.
Ouais, voilà, les auteurs ont réussi à faire passer un sentiment. Voilà, c'est ça. Ils ont réussi à faire passer un sentiment, et une ambiance, et une humeur, et c'est très efficace. Voilà, devant tant d'éloges, tu aurais quelque chose à rajouter? Es-tu de mon avis vis-à-vis
Non,
de
non,
cette.
vraiment, vraiment ton avis, mais c'est vrai que c'est. Enfin, du coup, c'est pas évident de vous en parler parce que. il nous a plu vraiment à tous les deux, mais on manque de mots pour essayer de toucher du doigt vraiment ce qui...
Alors, soit les auteurs sont très bons, soit on est de très mauvais chroniqueurs.
Le chroniqueur,
peut-être un peu des deux.
Voilà, je pense que là, très largement, on va dire. Maintenant, je pense qu'ils ont vraiment très, 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 très bien réussi leur coup. Et qu'entre le scénario et le dessin, il y a vraiment eu
une alchimie.
Une alchimie qui s'est créée, qui fait que ça fait un truc, mais...
Ça fait un peu quand même marronnier, enfin mot bateau. Il y a une alchimie entre le dessin et l'histoire, mais c'est vrai. C'est
ouais,
vrai.
Mais ça fait un peu ovni, quoi. Je veux dire, on n'arrive pas à le décrire, quoi. Tu restes dessus, tu fais ouais, mais ça m'a remué quelque chose, ça m'a fait sentir des trucs, mais pas évident à expliquer.
Je pense qu'il faudra le relire d'ici quelques temps, l'esprit un peu frais. Et je pense qu'il faut que vous le lisiez, voilà.
Faites-vous votre avis, ouais. Feuilletez-le,
bon, déjà, appréciez ou pas les dessins, après c'est une question de goût, hein. C'est un style de dessin, enfin, moi j'aime bien ce côté-là, qui ne plaira pas forcément à tout le monde, on est dans des tons très, très, dans les... Bah, c'est de l'aquarelle, donc c'est...
Donc ça pique pas les yeux déjà.
Ça pique pas les yeux, c'est tout en... l'attaque gratuite. C'est tout en... Comment dire ? Il y a des ocres, ah zut, je trouve pas le mot. C'est des lavis, voilà. C'est beaucoup de lavis, de couleurs très très douces et des contrastes très très doux aussi derrière. Bon, hein, devant tant de poésie, si on partait un petit peu plus loin et qu'on s'attaquait désormais à un petit récit de science-fiction, hein, on va passer au futur. Nous allons passer à Ceci est mon corps de Sébastien Godals et Damien Marie. On va parler des deux tomes de ce diptyque du cycle qui s'appelle Needs. Et c'est une série qui va être assez difficile à classer dans sa bibliothèque et qui est dure à trouver. J'ai ramé pour le trouver. En fait, on m'avait offert le tome 1 de Ceci est mon corps et je me suis dit, ah, je vais essayer de me choper le tome 2, comme ça j'aurai le diptyque et on pourra en parler dans notre émission. Et je me suis retrouvé très ennuyé car mon gentil libraire n'arrivait pas à trouver dans les bases de données le bouquin, surtout que j'avais un titre approximatif, un nom d'auteur approximatif, donc autant dire que j'étais plein d'informations très pertinentes.
j'ai pas le nom de la BD, j'ai pas le nom de l'auteur, ouais, et j'ai pas l'éditeur. Bon, bah écoute.
Si, j'avais le nom de la BD et tout. Sauf qu'en fait, le diptyque a été renommé, il s'appelle maintenant Needs. Parce qu'en fait, voilà, c'est plusieurs... comment décrire ça ? En gros, on a une série qui va contenir plusieurs diptyques. On a donc Ceci est mon corps, qui est le premier diptyque. Le deuxième s'appelle Ceci est mon sang. Je pense que le prochain s'appellera Ceci est mon âme, au moins, un truc dans le genre, on verra. Je sais pas combien il en a prévu derrière.
En théorie, c'est pas ça la suite, mais Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et après, là, directement, on arrive avec Inno et Spatrice, Spectre Sancti.
Oui, mais bon, je sais pas, je le sens comme ça. Et donc, la série
s'appelait... Livré pour vous, ça va être ça, le prochain.
Livré pour vous. La série s'appelait Ceci est mon corps, sauf que quand ils ont sorti le deuxième diptyque, ils ont décidé d'appeler la série Needs.
C'est nul.
Ce qui fait qu'en gros, moi, je cherchais une série qui s'appelait Ceci est mon corps, et lui, il trouvait pas, parce qu'il fallait qu'il cherche à Needs. Bref, il y a eu un travail éditorial un petit peu complexe derrière. Sur le coup, je trouve ça un peu dommage. C'est dans la collection Grand Angle, chez l'éditeur Bambou, qui d'ailleurs fait les choses très très bien. C'est qu'il n'écrit que Grand Angle et pas Bambou sur ses BD. Parce que Bambou a une image dans le domaine de la bande dessinée, je ne sais pas si tu la connais.
Je vois, mais
bon, Bambou,
plus de titre qui revient là.
Bambou, c'est toutes les séries thématiques humoristiques.
Les profs, les CRS, les gendarmes, les rugbyman.
Voilà, qui sont plus ou moins, enfin, sur lesquels je porte assez peu d'intérêt en général. C'est
plus ou moins une réussite.
Disons que c'est des BD qui marchent bien, parce que c'est vrai que quand t'as un pote prof, c'est toujours facile de lui offrir la BD les profs. Bon, même si je suis médisant, les profs, j'aime bien le dessin de Pika, et voilà. Mais ça doit venir de l'école Abracadabra quand j'étais petit, j'en sais rien. Bon, donc on est dans la collection Grand Angle, qui est une collection, on va dire, plus BD d'auteur, quoi, plus adulte. Plus... Bon, là, on est dans du techno-thriller, je crois que c'est le terme.
Ouais, on va dire ça.
Et comme j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure, c'est toi qui vas nous raconter le début de l'intrigue. Allez, hop, c'est parti.
Début de l'intrigue, on a un jeune gamin friqué qui... fait suer son père en ne foutant rien dans ses études et en ne pensant qu'à faire la fête et à s'enfiler de la dope.
Mais c'est une série réaliste en fait sur...
Exactement, exactement. Alors le monde a un petit peu évolué, c'est que maintenant il y a les riches, enfin non, excuse-moi, maintenant il y a les très très riches Et il y a les très très pauvres. Alors, les très très riches, donc sans fil de la cam, ils font la teuf toute l'année. Et très très pauvres, bah, ils essaient juste de survivre.
Oui, enfin, les enfants de très très riches, parce qu'apparemment, les très très riches, eux, ils bossent quand même.
Ouais, enfin, visiblement, son père est avec une meuf qui est à peu près plus jeune que son fils.
Mais ils bossent quand même.
Ouais, enfin. Oui, ouais, c'est sûr, il bosse, excuse-moi. Ouais,
excuse-moi, c'est pas n'importe qui. Son père, il est vachement balèze. Hein.
Il est vice-président de NEEDS.
Voilà, et puis il est.
Parce que la NEEDS, en fait, c'est la société qui, justement, a créé donc, les petites pilules qui permettent aussi d'aller mieux.
Ouais.
De mieux vivre dans le monde.
Oui, et puis apparemment, c'est une société qui.
Qui est une multinationale qui fait plein de choses.
C'est un peu méga corporation qui dirige une partie du monde, quoi.
Parce qu'ils font des recherches, ils livrent l'eau. Enfin, bon,
il y a un côté assez cyberpunk, côté méga corporation qui dirige le monde.
Voilà. Et jouer corpo, c'est toujours mieux.
Ouais. Et donc ce jeune, qui est le roi de l'histoire, le héros, mais que lui arrive-t-il ?
Eh bien, il se retrouve à... Alors, attendez, on va le refaire. Il ne se retrouve pas, en fait. Hein.
Donc, ce jeune ne se retrouve pas. Et cela lui pose de gros problèmes psychologiques. Il va chez le psy. Non, c'est pas ça.
Parce qu'en fait, ils ont un petit loisir. Mais là, du coup, tu vois, j'ai une sorte de flashback. Je cherchais le nom du film où ils ont ça avec des sortes de petits disques. Où on peut Strangers. Voilà. On peut vivre donc les sensations des autres. On prend leur corps et on peut s'amuser avec.
Sauf que là, ce n'est pas les souvenirs qu'on récupère.
C'est carrément, on récupère le corps.
Voilà.
Et donc, du coup, on peut aller vivre la vie, justement, dans les bas quartiers, s'amuser à faire des courses de caisse.
En gros, c'est les pauvres qui louent leur corps aux riches.
Aux riches, pour s'amuser. Enfin, pour eux, pour gagner leur vie, et pour du coup, ça amuse les riches.
Voilà. Même si apparemment, il y a des contrats de sécurité, comme quoi il faut faire attention au corps dans lequel on est.
Oui, il ne faut pas le casser, il ne faut pas enfreindre la loi, mais bon. Quand on est riche, on peut tout faire.
Et surtout avoir des systèmes illégaux qui ne sont pas contrôlés.
Voilà, parce qu'après, du coup, forcément... En plus de ça, on peut avoir des systèmes illégaux où il n'y a plus aucune règle, on peut faire ce qu'on veut avec le corps qu'on récupère. Et sur ce, vont surgir quelques amis, justement, à notre petit gars, et ces amis vont être, pour certains, assez bizarres. Oui, c'est un bruit de l'au-delà qui arrive.
Oui, c'est mon imprimante qui se met en marche.
Et donc, ces amis de l'au-delà aussi.
Et de l'au-delà. Quelle transition, franchement.
Je ne sais rien.
On a été perturbés par l'imprimante, là.
C'est ça. Et donc, ces deux filles, justement, qui elles aussi sont les filles d'un président de NEEDS, ont des loisirs très, très, très illégaux parce qu'elles tuent des gens. Et on va se retrouver avec une sorte de conspiration où notre pauvre petit gars va se retrouver au milieu d'un meurtre. On va essayer de le fumer, de le rouler dans la farine. Et finalement,
Il
gagne à la fin.
Ouais. C'est assez particulier. Disons que le premier tome, je l'avais lu, j'avais trouvé ça sympathique. C'est cool, l'univers est sympa, le dessin tient la route, c'est pas mal, il y a un peu d'action. Ils nous ont posé des bases, quelques idées cool, ils rentrent dans le corps des autres, etc. Avec une chute intéressante qui donne quand même envie de savoir ce qui va se passer derrière.
Oui, parce qu'il finit, on peut le dire, il n'est plus dans son corps. Son corps a été désingué et lui est juste pour 4 heures dans le corps d'un autre.
Voilà.
Parce que s'il reste plus de 4 heures, il va être très, 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 très embêté.
Voilà. Et on arrive au tome 2. Et alors, le tome 2, j'ai trouvé ça génial. C'est bourré d'idées fantastiques. Franchement, je regrette pas d'avoir chopé le tome 2. Parce que le tome 1 avait du potentiel, mais je trouve on est trop dans l'installation de l'histoire, quoi. Tu vois, on pose des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent à gauche, à droite, sans que l'histoire avance réellement. Et le tome 2, en fait, c'est super, parce qu'il s'amuse à nous faire course-poursuite. Une course-poursuite géniale, en passant d'un corps à un autre, en n'arrêtant pas de changer, puis en revenant dans l'ancien corps dans lequel on était, avec le gars qui essaye de les retrouver, parce qu'en gros, le jeune connaît une information, mais ignore la connaître, c'est ça qui est assez fun, et recherché. Ça part en vrille, on découvre un peu quel est le gros complot autour de la NEEDS, hein, qu'il y a derrière. C'est très, très, très bien mené. Et avec une chute qui ferait une... On va dire qu'il fait une bonne fin de diptyque, mais c'est vrai qu'on a envie d'en apprendre plus derrière encore. Ce qui fait qu'il va falloir que je chope la suite aussi. Le premier tome du deuxième diptyque est déjà sorti, il va falloir que je le récupère.
Bah, disons qu'en fait, c'est vraiment une histoire. Moi, j'avais feuilleté le premier tome, on va dire, dans une boutique avec un sigle blanc et. Enfin, rouge-blanc-noir. Hein.
Tu sais, on s'en fout, hein, on n'est pas
là. Ouais, bon, j'étais au Virgin et j'ai feuilleté ça en me disant, tiens, ça a l'air sympa. Et c'est vrai que bon, le premier tome, voilà, ça casse pas des pattes à un canard. C'est bien, sans plus. Par contre, quand on arrive au deuxième tome, on se dit, le mec, il avait vraiment super bien géré son scénario.
Alors, quand on arrive au deuxième tome, moi, il y a un truc qui m'a fait sourire, c'est la dédicace qu'il y a au début. Il fait une dédicace à ses amis qui dit « Il remercie Eric Erengel et Luc Ledran pour leurs idées si déconcertantes qu'elles m'ont paru d'une évidente clairvoyance. Ça sent trop le « Ah, j'ai l'idée, on passe dans un corps d'un autre » et les potes qui sont arrivés en disant « Et si on est dans le corps d'un autre et qu'on passe dans le corps encore d'un autre et dans le corps encore d'un autre et dans le corps encore d'un autre, qu'est-ce que ça fait ?» En gros, ils ont dû lui poser les questions qui ont dû lui permettre de construire son histoire de façon vraiment aussi efficace dans le deuxième tome. Ça vaut le coup. Parlons, bon, on a parlé du scénario, parlons du dessin de Sébastien Goethals. Bon, les couvertures sont très sympas. Bon, déjà, ça, on va le dire, moi j'aime beaucoup les couvertures. Non, toi tu t'en bof. Hein.
Ouais, non.
Elles se répondent déjà, je trouve.
Oui, ça se répond, je suis d'accord.
Elles se répondent de façon intelligente, intéressante. En fin de compte, il y a beaucoup plus d'infos que ce qu'on croirait dedans.
Oui.
Surtout la première. Et ensuite, les dessins à l'intérieur. C'est du dessin réaliste, on va dire, école réaliste. Européenne, avec un petit côté américain sur l'ancrage. Dans la chevelure des jeunes filles, on sent une influence Manara. Tu le vois sur les cheveux de sa copine
Jenny.
Il y a une influence qui me fait penser à Manara. Le style graphique des personnages, des mecs, un côté un peu plus proche du comics, on va dire. J'ai pas de nom d'illustrateur, en veine réaliste. Hein.
Bah, disons que moi, je fais le mec qui va chasser notre petit héros ressemble quand même vachement à une sorte de Marshall ou avec son petit nœud là, on dirait vraiment un shérif quoi.
Il s'est amusé, ça c'est quelque chose oui qui s'est amusé et qui va dans le sens, c'est qu'au niveau de tout ce qui est dans cette mode futuriste, il est parti dans du rétrofuturisme. En gros, il a pris des vieux objets qu'il a des vieilles modes et genre la vieille mode est revenue.
Ouais.
C'était un peu l'approche qu'il y avait dans Gattaca.
Exact.
Sachant qu'on est dans des thèmes assez qui peuvent s'en rapprocher.
Qui pourraient s'en rapprocher.
Dans le techno-thriller, quoi. Et donc voilà, Ceci est mon corps est une bonne série. Je la recommande. J'ai trouvé ça très bien. Je me rends compte qu'il y a 15 jours, on a oublié de dire quel était notre meilleur de ce qu'on avait lu. On va le faire pour cette fois-ci. Tiens, allez.
En même temps, sur il y a 15 jours, c'était un petit peu complexe quand même vu la quantité de dope qu'il y avait, quoi.
Ah ouais, à ce point-là.
Bah
non, c'était pas complexe, c'était facile de se trouver le truc bien.
Oui, parce qu'en fait, Scott Pilgrim, bon, ça, mis à part le film qui a l'air vraiment d'être vraiment bien.
Voilà. Bon, on va pas refaire le débat de la semaine dernière.
Ah, on va pas le refaire.
Hein. Parlons de cette semaine.
Cette semaine.
Ah, quel est le truc que t'as préféré?
Dur à dire. En fait, l'encre du passé, parce que voilà, ça m'a laissé un peu sans voix, quoi.
Ouais.
Ça te laisse un peu sans voix parce que voilà, c'est très contemplatif. Alors ça, peut-être que en ce moment je suis comme ça, j'aime bien le contemplatif. Ok, peut-être, mais c'est vrai que là je suis resté un peu sur le cul des dessins. Un scénario qui t'amène des choses tout en douceur, quoi.
Bah moi j'aurais du mal aussi à choisir, étant donné qu'en fait on a des choses très différentes. C'est ça qui est assez compliqué. Disons que je vais aussi aller sur l'encre du passé parce que bah il y a un côté en fait BD que j'ai envie de relire. Voilà, c'est surtout ça. C'est une BD, j'ai déjà envie de la relire. Parce qu'elle m'a plu et que je la relirai volontiers. Voilà, on va pouvoir passer à notre rubrique hors sujet. Et notre hors sujet du jour, c'est un petit jeu
qui s'appelle Mr. Jack.
Voilà, Mr. Jack Pocket. Qu'il ne faut pas confondre avec Mr. Jack pas Pocket, qui est un autre jeu.
Qui n'est pas le même jeu. Enfin, qui est le même jeu, mais pas vraiment. Non, mais pas sur le même format.
Ouais, non, mais puis même pas le même jeu en fait. Bref, Mr. Jack Pocket, c'est un jeu qui est sorti chez Hurricane, qui est distribué par Asmodee, donc on doit pouvoir trouver assez facilement, qui coûte 15 euros, un peu moins en général, genre 14,95. Donc petit format, petite boîte, jeu simple, c'est un jeu à deux. On a fait quelques parties avec Thio tout à l'heure pour tester.
Et vraiment, ça se... voilà, on ne va pas s'embêter avec les règles, il n'y en a pas 50 000. Ça joue très rapidement et très très vite, dès la deuxième partie, on réalise quand même que c'est un jeu qui est ultra, ultra tactique.
Et très riche. En gros, ouais, les règles sont très simples, ça prend très facilement. Les parties sont courtes, hein, ça dure une vingtaine de minutes.
Ou même pas.
Ouais, entre 15 et 20 minutes. Mais je pense que quand on commence à vraiment réfléchir, ça doit durer plus longtemps, parce qu'il y a de quoi se vriller le cerveau. Quand
oui,
même.
Mais sauf qu'après, je pense qu'il faut mettre un petit timer, tu vois, pour dire...
Ouais. Alors, c'est un jeu à deux. C'est un jeu, ce qu'on appelle asymétrique, c'est-à-dire que les objectifs des deux joueurs ne sont pas les mêmes, même si les mécanismes des deux joueurs sont très très proches.
Il y a les enquêteurs qui doivent découvrir qui est
Monsieur Jack.
Mr. Jack. Et Mr. Jack qui doit...
Qui doit ne pas se faire repérer. Donc, pour ne pas se faire repérer, le but de Monsieur Jack, c'est de récupérer des sabliers. Et en gros, à chaque tour, s'il arrive à ne pas se faire voir, il réussit à récupérer des sabliers. Et le but des enquêteurs, c'est de réussir à déterminer sur les 9 personnages disponibles dans le jeu, qui est Monsieur Jack. En gros, le meurtrier tire une carte qui va dire qui il est au départ. Il la cache, il la garde pour lui. Ouh, c'est moi, je ne me cache pas. Et en gros, on a un tapis de 3 cartes, de 3 sur 3, donc de 9 cases, avec les enquêteurs qui vont balader autour. Et en gros, tu as des couloirs hantés. Et en fonction de comment on les organise, l'enquêteur va pouvoir voir ou ne pas voir certains personnages.
Parce qu'en fait, les plaques bougent et on peut avoir donc soit un mur en face de soi, soit un petit couloir, soit un coude, et on verra des personnages, on ne les verra pas.
Bon, je renverrai, je pense, pour expliquer les règles aux gens qui sont intrigués, la Trick Track TV qui en parle, qui explique les règles avec l'auteur et tout, c'est très 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 bien expliqué. Bref, ça tient la route, c'est très très simple. Et mon téléphone sonne, ha ha ha.
Shame on you, mais...
Non mais c'est mon téléphone de la maison, je ne vais pas le couper. Allez, on revient. Attends, c'est le moment du Time Warp.
Avec une fantastique sonnerie bien pourrie de téléphone de maison, quand même.
Ah bah oui. Hein. Donc, nous disions donc, tu vas voir qu'en plus, on va même pas l'entendre.
C'est ça. En fait, c'est pour des foot. Oui, c'est une sonnerie de téléphone.
Bref, des mécanismes très simples, plein de petites idées intelligentes. C'est-à-dire que, par exemple, chaque joueur, à chaque tour, chaque joueur va faire 2 actions.
Mais pas dans le même ordre.
C'est-à-dire qu'il doit en choisir, c'est-à-dire que le joueur qui commence choisit une action et le joueur après en fait 2 consécutives. Et forcément, stratégiquement, ça lui permet de choisir l'action qu'il va laisser à l'autre joueur et de choisir les actions qu'il va faire. Donc c'est plein de petits mécanismes simples, rapidement assimilables et une prise de tête très rapide quand on veut gagner.
Non, c'est très très efficace, vraiment agréable à jouer.
Un jeu à deux sympathique et qui en plus n'est pas totalement éloigné du comics parce que c'est Jean-Marie Minguez qui a fait les illustrations du Mr. Jack Pocket. Et Jean-Marie Minguez, on a déjà pu le voir sur divers projets de BD, certains tomes des Contes du Korrigan et le Grimoire de Féerie. Donc voilà, c'est très sympathique, très efficace et nous le recommandons.
Et surtout que pour 15€, vous avez quand même un jeu qui est vraiment de qualité.
Et rejouable à satiété, parce que...
Parce qu'à chaque fois, les parties sont différentes. Oui. Et qu'on peut à chaque fois jouer un personnage différent. Soit voilà. L'enquête, soit on essaie de se cacher.
Voilà.
C'est la fin de cet épisode de 16.
Oui, on se retrouve dans 15 jours. Le téléphone ressonne, mais c'est pas grave, hein. On va dire que c'est comme ça.
Ouais, non, c'est pas
on va conclure avec le téléphone qui sonne. Vous pouvez nous retrouver sur la technologie de l'Internet mondial sur Facebook, facebook.com/oneaclub.
Sur Twitter.
Twitter.com/oneapied.
iTunes.
Voilà, donc iTunes, vous cherchez le oneaclub.
Et sur l'autre site de notre blog.
blog.jeudepied.org. Sur ce, nous vous souhaitons une quinzaine sympathique. On espère revenir bientôt avec plein de nouveaux trucs, plein de projets. On a plein d'idées pour cette nouvelle saison. On est déjà en train de travailler sur le numéro anniversaire. On espère qu'on va réussir à faire ce qu'on veut. On vous dit à bientôt. Ne vous ruinez pas trop en BD. N'hésitez pas à nous conseiller des trucs si vous en avez vu qu'on ne connaît pas. Et ciao.
Ciao, ciao.
Bye.